ce show dédié pour un bébé qui vient de naître et qui doit subir une opération chirurgicale très délicate. Le Tinoc Ben Johanna Lucien Khalam, Bat Hashem, qu'il réussisse très bien son opération, qu'il soit complètement guéri, sans aucun problème, toute sa vie. Amen, ve amen. Dans le cadre d'une autre rubrique, les joyaux de Paracha, Paracha de Vaïgash. Donc, je vous rappelle un peu, on a fini Niketz, qu'est-ce qui se passe? Yosef est le vice-roi d'Égypte. Ses frères ne savent pas que c'est lui, que c'est Yosef. Et il a demandé à voir Binyamin, son seul frère, de la même mère. Et les frères sont venus avec Binyamin et l'ont montré à Yosef. Ils sont tous très contents, ils boivent ensemble, etc. Et Yosef, il tape sur sa... Il a une coupe. Il leur dit, ok, vous asseyez-toi en premier, Rouven. Il leur dit, chacun d'après l'ordre de leur naissance, d'après les mères. Ils sont super épatés de voir comment cette coupe-là, cette coupe spéciale, elle sait tout. D'accord? Bon, après... Ils mangent, ils boivent, et le lendemain matin, ils partent. Yosef dit à son intendant, tu vas maintenant, tu remets l'argent de chacun dans le sac, et tu mets ma coupe dans le sac de Binyamin, le plus petit. Et ainsi dit, ainsi fait, les frères commencent à quitter l'Égypte, ils sont pas trop loin, l'intendant court derrière eux, et leur dit, pourquoi vous avez si l'amtem pourquoi est-ce que vous payez du mal à la place du bien? Mon maître, il vous a donné à manger, il vous a donné énormément de... Yosef lui a dit à l'intendant, tu mets dans les sacs le maximum qu'on peut mettre, d'accord, de nourriture. Vous étiez les invités spéciaux, etc., chez lui. Comme ça, vous volez la coupe de mon maître. Il dit, mais c'est shalom, à Dieu ne plaise, comment celui chez qui tu trouveras la coupe, eh bien, il mourra, et nous serons tous les esclaves de ton maître. Alors l'intendant dit, non, pas besoin ni le tuer, ni que vous soyez esclave. Celui chez qui je trouve la coupe, lui sera mon esclave. Bon, il fait comme s'il n'est pas au courant, il commence par le plus grand, il finit chez le plus petit, Binyamin, tac, il découvre la coupe. Tous, ils déchirent leurs habits, il dit, bon, on va tous être esclaves de ton maître. Il dit, non, je vous dis que seulement lui. Il repart en Égypte. Et là, Yehuda, c'est le début de Paracha, il vient et il parle très durement avec Yosef. Il dit dans le texte, « Alecha rapecha, ne te mets pas en colère. » De là, dit Rashi, de là, on voit qu'il a parlé durement à Yosef. Avant de continuer ce que je veux dire, déjà, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont revenus. Et pourquoi Yosef, il a mis la coupe dans le sac. Alors la coupe, la réponse est très simple. J'ai mis de l'argent. Alors un voleur qui a volé, ben, il doit rendre, ou bien on peut lui faire rendre la somme d'argent, le double, le triple, le 10 fois plus, 100 fois plus. L'argent, on peut rendre de l'argent. Mais une coupe magique, que quand on tape, toc, et te dit à chacun qui est l'aîné après, etc., ça n'a pas de prix. Donc Yosef va lui mettre une chose qui va légitimer, qui va dire, moi je garde Binyamin en esclavage, il reste mon esclave à perpète, et vous pouvez rentrer maintenant chez votre père. Ça, c'est pour la coupe. La question se pose pourquoi eux, ils reviennent. Ils étaient 11 frères, très très forts, très très puissants. On verra après qu'il y a une bagarre terrible entre les deux. Ils savent qu'ils n'ont pas volé. Ou même s'ils ont volé, après on découvre Binyamin, ok, tiens, reprends la coupe, on s'excuse, bye, et on part. Ils reviennent en Égypte. Pourquoi? S'il y avait un otage, comme la première fois, Shimon, d'accord, je comprends que tu reviennes, mais là, il n'y a rien du tout. Écoute, on s'excuse, on est vraiment embêté. On va lui faire une bonne correction à ce Binyamin-là. Pourquoi est-ce que tu as volé la coupe? Vous avez raison, très bien qu'il est revenu. On est très content que tu nous as attrapé maintenant et pas quand on serait déjà arrivé en Israël. Nos excuses, voici la coupe, bye! Comme des gentils garçons, ils reviennent en Égypte, chez Yosef, ils se mettent par terre et ils se mettent à pleurer, déchirer, on est désolé, etc. Pourquoi? Je n'ai pas vu de commentaire là-dessus. Mais le langage que dit l'intendant est très intéressant. Il dit, pourquoi est-ce que vous avez payé du mal par rapport au bien qu'on vous a fait? J'ai pensé que pour les fils de Yaakov, c'est inconcevable de ne pas les expliquer devant Yosef. Quoi? Nous? On est représentant de la famille de Yaakov. d'Hachem. On est serviteur, Yudke Vavke, non ineffable, d'Hachem, du vrai. Que nous, on soit accusés à tort qu'on a rendu du mal par rapport au bien, la reconnaissance du bien, il faut savoir que chez les grands de Torah, de tout temps, la reconnaissance du bien, c'était une mida, une qualité, peut-être la top, la plus importante. Savoir toujours rendre le bien pour le bien. Et plus que ce qu'on a reçu, Bezrat Hashem. Et là, ils ont reçu. Et quoi, maintenant, on les accuse d'avoir volé? C'est inconcevable. Donc, ils reviennent comme des tatalés, comme on dit très gentiment, comme des petits chiens, d'accord? Merci de parler comme ça sur les shvatim. Avec très, très gentiment, ils reviennent pour s'expliquer avec Yosef. Et là, comme je dis, il parle très durement. Yehuda va et commence à... Attention, je vais m'énerver, je peux te tuer, toi, qui attaque tuer comme Pharaon. D'accord, il y a plusieurs explications que donne Rachid là-bas. Entre autres, si tu continues, je te tue, toi et Pharaon, toi et ton maître. D'accord. Et le Midrash raconte qu'il y a une bagarre terrible. Chacun a hurlé, il paraît que tous les soldats d'Égypte, leurs dents sont tombées, rien que du hurlement de Yehuda. Et le fils de Yosef a dit, lui aussi, il a tapé par terre comme ça, tout le palais a commencé à trembler. Donc ils ont montré qu'ils étaient les deux extrêmement forts. On était vraiment un débat terrible. Je ne comprends pas, il y a quelques minutes, vous étiez tout gentils. Vous revenez, comme je dis, tout obéissant comme des moutons, pas comme des chiens, excusez-moi. Comme des moutons, vous revenez chez Yosef. Maintenant, vous commencez à crier. Qu'est-ce qui s'est passé? Entre notre paracha qu'on a fait la semaine passée, Miketz, où ils reviennent tous gentiment, et là, tout à coup, il se met à crier, terrible, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La réponse, elle est très très simple. Les fils de Yaakov, c'était des grands sages, des grands tzadikim. Ils savaient qu'il y avait un problème. Ils ont vendu Yosef. Ils ont vu toute la douleur de leur père Yaakov qui n'arrivait pas à se consoler. Ils ont compris. On a vendu Yosef. On a un tikkun à faire, une réparation, Hachem nous voit maintenant. Nous, on nous a attrapés, c'est clair qu'on n'a pas volé la coupe, mais maintenant, on va être vendus tous en esclavage. Et même Binyamin, pourquoi? Parce que s'il y a un voleur dans une bande de personnes, un groupe, tout le groupe est responsable. Donc tout le monde, on accepte d'être esclave pour réparer le fait qu'on ait envoyé notre frère Yosef en esclavage. Jusqu'à là, tout va très bien. Yosef dit non, pas du tout. Vous rentrez à la maison, je garde que Binyamin, lui, sera mon esclave. La perpétuité parce qu'il a volé la coupe. Ben, ils ne comprennent pas. Je ne comprends pas. Et Binyamin n'a rien fait. Binyamin n'était pas dans la vente de Yosef. Il n'était pas là. Alors pourquoi lui doit écoper? Là, ça cloche. Tant qu'on comprend que nous, on doit être envoyé en esclavage, ça va, réparation, tikkun, on accepte. Que nous, on soit tous ensemble avec Binyamin, ça passe encore parce qu'on est un groupe ensemble, un voleur dans un groupe, alors tout le monde est responsable. Binyamin tout seul, lui reste esclave et nous pas, ça ne marche pas du tout. Et là, ils se sont énervés. Et Yehuda, regardez à quel point Yehuda s'implique. Yehuda, c'était en fait le grand responsable. Rouven a dit, ne le tuons pas, jetons-le dans le trou. Shimon et Lévi, c'est vrai que ce sont des frères aînés, mais le roi, celui qui était censé être le roi du peuple d'Israël plus tard, sera Yehuda, la descendance vient de Yehuda. C'était le grand chef là-bas. Donc lui s'implique plus que les autres et... Il a promis à son père Yaakov que il a dit à Revenem, je porte garant que j'emmènerai Binyamin moi-même. Et sinon, que je sois excommunié de deux mondes. Rachid explique là-bas dans son langage que je sois excommunié des deux mondes, et de ce monde et de l'Olam Haba. Je perds l'Olam Haba. Donc il a super intérêt maintenant à arranger la chose. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bachar HaKadosh dit une chose très très nouvelle, il dit comme ça. Il y avait deux problèmes, Yehuda. Un, si je ne ramène pas Binyamin, je perds Olam Hazeh Olam Haba. Et deuxièmement, si je ne ramène pas Binyamin, mon père va être inconsolable. Inconsolable. Il risque même de mourir de cela. Et il décide, entre les deux, mon Olam Haba et mon père, je préfère rester moi à la place de Binyamin. Si moi je ne ramène pas Binyamin, ce sera ou Binyamin ou moi. Si je ramène Binyamin, fantastique, moi je ne peux pas. Si je ne ramène pas Binyamin, c'est fichu. Je perds et on m'enlève là-bas et mon père il va mourir. La seule solution, c'est que moi je reste en Égypte. Comme ça, mon père sera consolé parce que Binyamin reviendra, mais je perdrai mon Olam Haba. Parce que, comme là, c'est un chidouche de Hachar HaKadosh, il dit qu'il s'est engagé à ce que lui, il ramène Yosef, il ramène Binyamin. Et vu que lui ne ramène pas Binyamin, Binyamin revient tout seul, lui, Yehuda, perd les deux mondes. Il est prêt à perdre les deux mondes pour que son père soit consolé. Bon, l'histoire, elle est connue. À la fin, les deux s'énervent très fort et Yosef leur dévoile qu'il est Yosef. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Et je crois que l'enseignement qu'il y a ici, c'est un enseignement qui est valable pour nous tous, toute l'humanité, comprendre comment Hachem gère son monde et comment on doit réagir à tout ce qui nous arrive. Rien ne peut m'arriver si ce n'est que Hachem l'a voulu. Même si quelqu'un me fait du mal, et les responsables lui-même avaient le choix de me faire du mal ou pas, et décide de me faire du mal, on ne va pas dire à moi, on va dire à quelqu'un d'autre, d'accord? On a Rouven et Shimon. Rouven fait du mal à Shimon. Rouven avait le choix de faire du mal à Shimon ou de ne pas lui faire du mal. Dans sa méchanceté, Rouven fait du mal de façon volontaire, méchante, coupable contre Shimon. Rouven est coupable. Shimon peut penser, Rouven, c'est une ordure. T'as raison. Je vais le haïr. Je vais me venger. Interdit. Pourquoi? Parce que bien que Rouven, dans son libre arbitre, de façon méchante, a fait du mal à Shimon, après tout, il est impossible que Shimon subisse quoi que ce soit comme souffrance, soit directement de Dieu, soit par le biais d'un autre comme Rouven, si Dieu n'a pas voulu. Ça provient de Dieu. Donc, les frères, quand ils comprennent qu'ils devraient partir maintenant en Égypte, ils ont compris tout de suite, c'est le tikkun, réparation. Quand ils ont vu que Binyamin, là, s'accrochait, que lui doit rester eux pas, là, ils se sont énervés. Et pour finir, en fait, c'est clair que tout cela était voulu par Hachem et par Yosef. Qu'est-ce qu'il a gagné, Yosef, par cela? Qu'est-ce que Hachem, il a gagné? Eux, ils ont vendu un des frères, et à cause de cela, maintenant, leur père était dans une douleur terrible pendant des années et des années. La seule façon de réparer, c'est que Yuda, qui était le grand responsable de toute cette vente-là, que lui s'implique au point de dire « Je suis prêt à perdre les deux mondes pour que mon père ne soit pas en douleur, pour qu'il soit consolé et que Binyamin revienne. » En faisant cela, Yuda a réparé la vente de Yosef. Lui n'a pas compris tout ça. Yosef, lui, oui. Yosef, il a fait tout ça justement pour voir à quel point. Yosef voulait leur bien, ce sont ses frères. Il a aussi rêvé de cela. Donc, il a dit, je garde Binyamin pour voir est-ce que maintenant les frères vont s'impliquer et combien ils vont s'impliquer par cela. S'ils sont prêts à s'impliquer à un point tel, ils font la réparation de sa propre vente de lui-même. D'accord? Dans notre vie aussi. Il y a des gens qui ou ne comprennent pas, ou pire, se révoltent contre Hachem. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils n'ont pas compris comment ça se passe. Jamais Hachem fait une chose qui est mauvaise. C'est impossible. Tout ce qu'il fait est bon, et c'est même faux de dire que c'est bon. C'est absolument bon. Absolu, ça veut dire que c'est le top, il n'y a pas mieux. C'est impossible que Hachem fasse une chose qui ne soit pas 100%, ou s'il peut faire 1000%, le top du bien. Si c'est 99,99999%, ce n'est pas Hachem. Parce qu'Hachem ne peut pas faire une chose qui n'est pas totalement et absolument dans le bien. C'est impossible. Impossible. Ah, moi je souffre, et j'ai des problèmes, et je vois ci, et je vois ça, et je ne comprends pas. Mon cher ami, tu crois qu'Hachem il se moque de toi? Hachem il veut que ton bien. Mais, tu as des choses à faire. Tu as un job pour lequel tu es venu sur Terre. On est né tordu. Hachem aurait pu nous créer parfaits comme des anges, on serait resté des gens, on serait resté dans le paradis, etc. Mais on n'aurait pas eu l'être. Hachem a voulu qu'on nous-mêmes on se construise. Alors on est créé à l'état brutal, plein de défauts, plein de problèmes, plein de choses à, je vais dire réparer, mais à arranger, à se parfaire. Et il va m'aider. C'est mon grand entraîneur, d'accord? Il me met tac, tac, il me dirige. Et quand je vais dans la mauvaise direction, paf, paf. Je dis bien paf, parce que des fois c'est des gifles, des fois... C'est des signes, mais très souvent, on ne comprend pas un signe, deux signes, 10 signes, 100 signes. Ça devient une gifle, une grande gifle. Et là, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu commences à dire, alors il y en a qui se révoltent et continuent, persistent dans l'erreur. Et Hachem continue, Hachem est plus fort. Il y en a qui, toute leur vie, persistent dans l'erreur, continuent, ils ne comprennent pas pourquoi ça ne va pas. Il faut recevoir avec abnégation tout ce qui nous arrive, savoir que tout provient d'Hachem. Pour notre bien, si on est au niveau même recevoir ça avec joie, c'est un niveau de grand tzadiki. En tout cas, avec abnégation, et voir qu'est-ce que je peux arranger chez moi, pourquoi ça m'arrive. Pas toujours on peut voir pourquoi ça m'arrive. Mais en tout cas, d'habitude, le travail en gros, il est s'écraser, accepter, lever les yeux vers Hachem, prier Hachem, accepter la direction qu'Hachem a choisie pour moi. Si tu vas dans ce sens-là, forcément, forcément, ça ira mieux. Ça se peut que la gifle qu'Hachem t'envoie ne va pas s'arrêter. Quelqu'un, il a, je ne sais pas moi, il a copé un problème, une maladie ou un truc comme ça. Peut-être que c'est pour toute la vie, je ne sais pas. Mais tu vas grandir de cela. Au lieu de révolter, de te révolter, et de rouspéter, et de ne pas comprendre, et des fois même de la haine pour Hachem, à Dieu ne plaise. Là, tu es complètement dans le tordu. Il y en a qui acceptent, et continuent à prier, et espèrent, et ça ne vient pas, mais grandit. Le fait d'être confronté à l'épreuve, ça te grandit, ça te grandit, ça te grandit, ça te grandit. Tu deviens quelqu'un, ce que Hachem a voulu, quelqu'un de grand, quelqu'un de spirituellement énorme. Ce monde y passe comme ça, clic-clac. Après, tu es dans l'éternité. Si tu continues à persister à aller dans ton erreur et pas accepter ce qu'Hachem a voulu pour toi, tu sais pas que tu reviendras en Gilgoul, tu en réincarnation. Hachem est le plus fort que toi. Tu crois que tu vas l'avoir à lui. Qui est plus fort dans le jeu? C'est lui, c'est clair. Alors accepte, va dans le sens, tu pourras que grandir en acceptant et en remerciant Hachem et en allant, en priant Hachem. D'abord, tu as de fortes chances que l'épreuve s'arrête. Parce qu'Hachem voit qu'il a compris, ok, c'est bon, halt, ça suffit. Des fois, Hachem, il ne veut pas, pour d'autres raisons qu'on ne connaît pas, il veut que tu grandisses encore. Le fait d'être confronté à l'épreuve et l'accepter, et comprendre que tout vient d'Hachem, et aimer Hachem malgré tout, et faire avec, ça te grandit énormément. Il y avait une fois, un couple qui a eu un enfant anormal. Un des grands rabbins de la génération, le rabbin Moshe Shapira, Zatzal, leur a écrit une lettre. À l'époque, j'avais la lettre, je ne l'ai plus. Il leur explique une chose qui est à peu près ce que je suis en train de dire maintenant. Et c'est vrai, je vous dis d'expérience avec beaucoup de gens que je fréquente, que je vois. Hachem veut de vous que vous ressortiez de vous des forces qui étaient cachées, qui jamais n'aura vu le jour. Quand tout va bien dans la vie, alors tu travailles, tu fais un effort. Mais c'est un effort petit. Hachem voit que tu es beaucoup plus grand. Il veut que tu trouves en toi une puissance. Que tu mettes, que tu réalises toutes les forces que tu as en potentiel, comme ça tu grandis 100 fois, 1000 fois, 10 000 fois, 10 000 fois. Je vous dis des gens que je connais qui ont eu des épreuves de ce genre-là ou d'autres, mais ils sont devenus grands, grands, admirables. Et par rapport au Lamaba, mais c'est une valeur incommensurable. Hachem ne se trompe jamais. Donc ce qu'on apprend de cette paracha-là, tout ce grand tikkun qu'ont fait les frères et Yehuda, c'était justement pour réparer cela, et nous aussi dans nos vies, on est là. Si on a fait des péchés pour réparer, sinon pour grandir, d'accord? C'est pas forcément que tu es en train de réparer un péché d'un guigoule passé, pas forcément. Mais chacun est né à l'état brut, pas parfait, il a un travail énorme à faire pour se parfaire. Et Hachem, le grand entraîneur, et on sait que tout ce qu'il fait est le mieux, absolument mieux qu'il puisse y avoir. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.